manifestation, donc évidemment, ça se termine ce week-end. Après la conférence, n'hésitez pas à faire le tour du bâtiment. Il y a d'autres initiatives, il y a des visites d'exposition, maths et puzzle à l'étage, sur les insectes au même niveau que nous, des spectacles au planétarium. Faites le tour, tout est ouvert, tout est prêt. En général aussi, c'est vrai. Je l'invite aussi à prendre notre programme qui donne l'ensemble des manifestations jusqu'en janvier, qui se déroule ici ou à Poitiers. La parole.
Merci. Alors bonjour à tous. Je ne sais pas, je voudrais d'abord savoir un peu qui vous êtes. Voilà, parce que j'ai prévu quelque chose d'assez simple, mais si vous demandez plus d'explications, il ne faudra surtout pas hésiter à demander. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir un peu dans la salle là comme type de personne ? Je ne sais pas. Ouh là là, alors là, ça va être difficile. Hein. Il y a du niveau. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, par exemple.
Je passe le micro, parce qu'on enregistre.
Oui. Moi, je suis président d'une association qui combat un projet de 1200 taurillons à Coussey-les-Bois sur une zone qui est un bassin d'alimentation en eau potable.
D'accord.
Moi, je suis juste curieuse et en fait, ça m'intéressait, donc je suis.
Moi, je suis étudiante en master de hydrogéologie.
D'accord. Je ne sais pas si je vais vous apprendre grand-chose aujourd'hui alors.
Voilà, bonjour, oui, je vais très souvent à des conférences à l'université et j'ai vu votre message, donc c'est pour ça que je me suis intéressé à votre sujet. Voilà. Présent. Merci.
Bonjour, bienvenue.
Moi, je suis juste une lycéenne, je suis en première S, donc voilà.
Super.
Moi, je suis étudiant en prépa BCPST.
D'accord.
Donc aussi un petit peu pour découvrir.
Oh, bah, c'est très bien. J'ai commencé par là.
Bonjour, moi je suis ingénieure en biologie et j'ai travaillé au BRGM, au laboratoire de biogéochimie.
D'accord.
Bonjour, retraitée, curieuse, rien d'autre.
C'est déjà beaucoup.
Oui, bonjour. Oui, non mais moi mes études sont très très lointaines, mais je réactualise, donc très intéressée.
D'accord.
Bonjour, je suis hydrogéologue depuis 1977.
D'accord. Bon, en activité. Niveau, là.
Donc, un public de curieux et de personnes intéressées dans tous les sens du terme.
Voilà, c'est ça. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, je vais vous présenter donc, ce que c'est les eaux souterraines et ce que c'est le métier d'hydrogéologue. Donc, je vois qu'il y a des gens pas mal qui travaillent dans la géologie. Pas mal qui font autre chose aussi, qui sont curieux. Donc voilà, on a tous des métiers différents. Et comment on en est arrivé à ces métiers, c'est intéressant aussi. Pour moi, je pense que ça a commencé finalement assez tôt. Je ne me suis pas dit tout de suite quand j'étais petite, je vais être hydrogéologue. Hein. On ne sait pas ce que ça veut dire quand on est en CP. Mais rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais les cartes. Donc je regardais l'Atlas, je regardais la map monde. Et puis un jour je suis tombée sur la carte géologique de France. Elle est quand même jolie, elle est super jolie quand même, hein, y a plein de belles couleurs, il y a plein de formes, c'est mystérieux, on se demande qu'est-ce que c'est, toutes ces couleurs différentes, pourquoi il y a plus de jaune à un endroit, plus de rouge à un autre. Et donc au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé à apprendre voilà, tout ce que c'était, à voir les différents types de roches. Donc il y avait des roches de type granitique, comme vous pouvez voir en haut à droite, ouais. Un peu sombre, mais voilà, qu'il y avait des roches de type calcaire, comme on peut retrouver sur le littoral charentais, par exemple, ou à Poitiers. Là, le long du Clain, on va avoir des grandes falaises avec du calcaire. Et puis, il y a d'autres types de roches qui vont être, par exemple, des grès qui sont formés de sable aggloméré et cimenté avec une matrice. Donc, plein de types de roches différentes. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai appris à mieux les connaître, à mieux les aimer. Et puis, il y avait autre chose que j'aimais beaucoup dans les études, quand j'étais à la primaire et quand j'étais au collège, c'était le cycle de l'eau. Ça m'a toujours fascinée, ça, le cycle de l'eau. Donc, est-ce qu'il y en a qui se souviennent du cycle de l'eau ? Alors, ceux qui sont en géologie, en hydrogéologie, là, dans les autres.
L'évaporation.
Ouais, l'évaporation. Ça tombe dans les nuages.
Ça se condense et ça tombe par la pluie, ça s'infiltre dans le sol, j'imagine.
Eh ben exactement, c'est exactement ça, voilà. Donc, l'eau s'évapore dans les mers, ça se condense dans l'air, ça forme des nuages, ça repleut, ça tombe sur le sol, ça va soit ruisseler dans les rivières, soit faire un petit détour et passer par les eaux souterraines. Et alors, que je ne sais pas de métier parce que j'en suis. Donc l'eau va s'infiltrer dans le sol, ça. Vous savez, ça va ruisseler dans les rivières, ça va s'infiltrer dans le sol. Voilà à quoi ça peut ressembler un sol. Donc ça va passer dans la terre, d'abord, puis atteindre la roche saine qui est sous nos pieds. Est-ce que... Voilà, puis au fur et à mesure, ça va s'accumuler, ça va former une nappe d'eau souterraine ou une nappe phréatique. Donc, à part ceux qui sont en géologie et hydrogéologie, est-ce que vous savez quelle forme ça prend, une nappe d'eau souterraine ? Au fond.
C'est la question, je m'interroge sur la question de la forme.
Bah, à quoi ça ressemble une nappe d'eau souterraine, en fait ? Bon, je suis là pour vous l'expliquer aussi, mais dans vos imaginaires, à quoi ça ressemble une nappe d'eau souterraine ? Comme une rivière. Alors, c'est souvent ce qu'on va dire. Moi, c'est ce que je pensais jusqu'à très tard dans mes études. Je ne vous dirai pas jusqu'à quelle année j'ai pensé ça. Il y a effectivement des rivières souterraines. Donc ça, par exemple, c'est celle de la grotte de Han-sur-Lesse en Belgique, que j'ai très envie d'aller visiter un jour. Ça a l'air super beau. Mais ce n'est pas la forme majoritaire. Ça arrive, mais c'est très rare. La plupart du temps, l'eau va être dans l'intérieur même de la roche. C'est-à-dire qu'elle va s'infiltrer, elle va se faufiler entre les grains de la roche. Donc soit entre les grains eux-mêmes, soit dans des espaces un peu plus grands. Ça peut être des fissures, des fractures, des failles. Et donc elle va passer par là. Je ne sais plus ce que je dois dire après, excusez-moi. Ah oui. Voilà, donc ça va former une eau souterraine. Alors on va essayer de regarder une petite vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Pour résumer tout ce qu'on a dit. Donc, vous vous souvenez ce qu'on a dit. Je voulais enlever le son, par contre.
L'eau rejoint alors le sol.
Excusez, un instant, technique.
Forme de pluie, mais aussi parfois de grêle ou de neige.
Voilà, ça y est. Donc, on a dit que l'eau s'évaporait, ça formait des nuages, il pleut, ça s'infiltre dans le sol. Voilà, ça s'infiltre dans la terre, végétale, d'abord. Ça va nourrir les plantes et former les arbres, etc. Puis ça va s'infiltrer dans la roche en elle-même. Lorsqu'elle arrive sur un niveau imperméable, ça peut être une couche d'argile, une couche de roche plus dure et moins perméable, le niveau de l'eau va monter, ça va former une nappe phréatique, ou une nappe d'eau souterraine, qui peut être en relation avec des rivières. Et alors, une fois que cette eau est arrivée ici, je vais essayer de retourner à la présentation. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette eau souterraine ? Est-ce qu'elle reste là ? Est-ce qu'elle bouge ? Allez, je vous le dis, elle bouge, évidemment. Elle bouge. Alors, je vais essayer de retrouver la présentation. Un instant. C'est là. Tac. Voilà. Oui, ça c'est prêt. Elle va bouger, donc elle va essayer de rejoindre le point le plus bas, comme sur un voilà, grand toboggan, elle va, sous l'effet de la pesanteur, rejoindre le point le plus bas. Qu'est-ce que ça peut être le point le plus bas ? Vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être une source. Donc c'est en partie comme ça que naissent les rivières. Ça peut être une rivière qui passe son chemin, et du coup, la nappe va venir alimenter la rivière. Et dans le cas le plus loin, ça peut être carrément aller se vider dans la mer. Voilà. Et à votre avis, combien de temps, à quelle vitesse ça va et combien de temps ça va mettre ? Par exemple, s'il y a une goutte d'eau qui tombe à Blossac, et qui va arriver jusqu'ici. Combien de temps elle va mettre à arriver jusqu'ici? Je sais pas. En admettant qu'on ait un beau calcaire bien costaud. Les géoles, là. Les hydrogéoles. Plusieurs milliers d'années. Non, ça fait un petit peu long, quand même. Si on, voilà, en moyenne, ça va avancer de quelques, voilà, un kilomètre par an. Ça va mettre un an à y arriver jusqu'ici. Voilà. Dans certains cas, ça peut aller plus vite. Par exemple, quand on a des karsts. Alors, les karsts, c'est ça qui va former les rivières souterraines, justement. C'est dans le cas où on a alors, un calcaire qui est fragilisé, qui est fracturé. L'eau, en s'infiltrant dans le sol, va venir dissoudre la roche et former des conduites. Des petites conduites au départ, et puis ça peut être des plus grosses conduites, ça peut faire des gouffres, et ça peut former des rivières d'eau souterraine, voire des lacs d'eau souterraine, comme on peut avoir à Ans-sur-Lez, par exemple. Dans la région, il n'y a pas beaucoup de lacs d'eau souterraine, j'en connais pas. Par contre, il y a des très grosses conduites qui vont faire des sources très importantes, comme par exemple à Niort, il y a la source du Vivier, qui alimente en eau potable la ville de Niort. Voilà, ça je vous l'ai déjà raconté. Donc c'est bien beau, je vous ai raconté, l'eau elle s'infiltre, elle forme une nappe d'eau souterraine et elle s'en va à la mer. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette eau? Est-ce qu'on la laisse tranquille ou est-ce que ça nous intéresse? Sinon je ne serais pas là pour vous en parler, c'est que ça nous intéresse. Donc on va s'en servir pour différents moyens, pour différentes utilisations, pour l'alimentation en eau potable, on va s'en servir pour l'irrigation des champs, et on va s'en servir pour l'industrie, on va s'en servir pour la géothermie, donc pour chauffer les bâtiments ou pour chauffer ou pour produire de l'énergie. On va s'en servir pour toutes les choses dont on a besoin, où on a besoin d'eau, pardon. Et comment on va faire pour aller chercher l'eau souterraine? C'est facile. On fait un forage, on fait un puits. Donc pour faire un puits, on a de la chance, on n'est pas au XVIIe ou au XVe siècle, hein. On a des grosses machines qui s'appellent des foreuses. C'est assez impressionnant à voir un forage, enfin, moi je trouve ça assez impressionnant. Donc on a des grosses machines qui viennent creuser la terre, qui vont à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mètres, jusqu'à ce qu'on trouve de l'eau. Après, on sort les machines, on prépare le puits tout bien, et on le ferme à la surface. On va mettre une pompe au fond, tout simplement, qui va aspirer l'eau et la remonter, et on va pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce que je voulais dire après ? Voilà. Donc là, je vous ai expliqué le cheminement de l'eau, comment elle arrivait, et comment, où est-ce qu'elle ressortait, et comment on pouvait aller la chercher. Mais sur son chemin, elle va rencontrer plein de choses, l'eau. Donc elle va rencontrer des choses cool, des substances cool. Par exemple, elle va se charger en calcium, en minéraux. Elle va se charger en fluor. Elle peut se charger en, voilà, en tout plein de minéraux qui sont indispensables pour nous. On a besoin de ces minéraux pour vivre. Des fois, c'est des minéraux qui ne nous intéressent pas trop, hein, comme le calcaire. Ça, voilà, quand on en a plein... sur la vaisselle, dans la baignoire, tout ça, c'est moins sympathique, mais c'est comme ça. Et puis, des fois, elle va rencontrer des substances un peu moins sympas. Donc, elle va pouvoir arriver sur un sol industriel, par exemple, et se charger en polluants, donc en substances chimiques, ça dépend de l'industrie qu'il y avait à cet endroit-là. Elle va capter ces molécules et elle va les entraîner avec elle dans la nappe d'eau souterraine. Elle peut aussi tomber sur une ville. Donc si la goutte d'eau tombe sur une ville, elle va tomber sur la chaussée, par exemple. Donc elle va récupérer des résidus de pneus, elle va récupérer des résidus d'essence. Elle va aussi récupérer, passer peut-être par des eaux usées s'il y a des fuites dans les canalisations, récupérer des bactéries. Elle va récupérer toutes sortes de substances qu'on utilise au quotidien, nous. Et puis elle peut tomber sur un champ cultivé. Et du coup, elle va entraîner avec elle les molécules que l'agriculteur utilise pour... favoriser la croissance de la plante ou la protéger des nuisibles, donc les nitrates par exemple et les pesticides. Et donc tout ça, ça va partir dans les eaux souterraines et malheureusement arriver jusqu'au captage d'eau potable ou d'eau pas potable, mais on va rester sur l'eau potable. Ça peut arriver jusqu'au captage d'eau potable. Et donc le métier d'hydrogéologue, en fait, c'est en partie d'aider à gérer tout ce système, donc d'aider à comprendre déjà d'où vient l'eau qui arrive à un captage. Se dire, j'ai mon captage d'eau potable, et on va essayer de chercher toute la surface sur laquelle, quand une goutte d'eau arrive, quand il pleut, une goutte d'eau arrive, elle s'infiltre et elle arrive au captage. Donc dans toutes ces surfaces, on va savoir que si jamais il y a des activités polluantes, bah, il faut faire attention, il faut prendre des précautions, et ça risque d'arriver, s'il y a un accident, jusqu'au captage. L'hydrogéologue, il va aussi aider à gérer la quantité d'eau. Essayer de faire en sorte que les niveaux d'eau ne baissent pas trop. Parce que si on baisse trop les niveaux d'eau, on peut assécher la nappe. Et puis, surtout, c'est embêtant quand on a des pompes qui sont à certains niveaux. Si on assèche trop la nappe, après, bah, c'est en dessous du niveau de la pompe, et là, on peut plus pomper. Donc, il faut refaire un nouveau puits, réinstaller une pompe. Enfin, c'est coûteux, c'est compliqué. Et puis, on risque surtout de plus avoir beaucoup d'eau. Donc ça fait partie du métier d'hydrogéologue. Donc, je vous expliquais, l'eau s'infiltre, ça fait une nappe d'eau souterraine, ça arrive à un captage. Et donc, l'hydrogéologue doit essayer de comprendre ce qui se passe pour aider à la gestion de cette ressource. Mais comment on va faire pour comprendre ce qui se passe? Parce qu'il faut qu'on aille surveiller les eaux souterraines. Donc, il faut que je sache, à tout endroit, qu'est-ce qui se passe dans l'eau. Donc, on va s'aider de la géologie, des sols, on va s'aider de la géologie. Mais ça, des fois, ça ne suffit pas. Il faut qu'on sache à quel niveau l'eau elle est, etc. Donc, on va aller faire des tout petits puits, des piézomètres. Ce sont des tout petits puits de surveillance. Donc, quand on a un captage d'eau potable, le puits peut avoir un diamètre de 50 cm ou d'un mètre, 2 mètres, 3 mètres pour les plus gros. Et quand on a besoin d'aller surveiller les eaux souterraines, on va faire un petit puits qui fait généralement 10 cm de diamètre. Ça suffit pour glisser une sonde et regarder le niveau d'eau. Donc on va regarder à quelle profondeur la nappe d'eau est. Et puis on va revenir 2 semaines plus tard, on va mesurer, on va voir, ah, ça a monté, ça a descendu. Puis on va revenir 2 semaines plus tard, voilà, etc., etc. Comme c'est un peu fatigant, on met des capteurs automatiques qui enregistrent tout seul. Et là, donc, par exemple, vous avez une image du réseau piézométrique en Poitou-Charentes. Donc vous voyez, il y en a à la fois beaucoup et pas beaucoup, des piézomètres. Ça, c'est ceux qui sont suivis en continu. Et après, on peut faire des campagnes piézométriques ponctuelles. Donc on va aller chercher dans les puits des particuliers, dans les puits pour l'alimentation en eau potable, dans les puits des agriculteurs, pour mesurer le niveau de l'eau à un instant T et pour faire une cartographie du niveau de l'eau sur cette zone. Ça nous aide à comprendre dans quel sens coule l'eau, où elle va, s'il y a des anomalies, donc essayer de les relier à la géologie, etc. Et donc, à quoi sert... Oui. Oui, en Deux-Sèvres, par exemple, c'est...
La nature des sols, ou
Alors, si je ne me trompe pas, c'est que là, on est sur du socle. Donc, on n'est pas sur le même type de... On n'est pas sur le même type de roche. C'est vrai que je n'ai pas pris de carte géologique du Poitou-Charentes, mais vous voyez, les deux zones autour de Bressuire, par exemple, là, on est sur du granit. C'est la fin du massif armoricain qui arrive là, et donc on est sur du granit, et il y a très peu d'eau exploitable à ces endroits-là, tout simplement. Donc il n'y a pas de piézomètre pour les surveiller, puisqu'on ne les utilise pas. Ou très peu. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je suis désolée. Oui. Donc, à quoi ça ressemble un enregistrement de niveau d'eau, justement? C'est ce que vous avez en dessous. Vous voyez, les niveaux d'eau, ils augmentent, ils baissent, ils augmentent, ils baissent. Ils sont plus bas en été, ils sont plus hauts en hiver. Ça paraît logique, mais au final, pourquoi? Quels sont les phénomènes qui vont faire qu'on a moins d'eau en été, plus d'eau en hiver? Alors, il y a l'évaporation en été, donc on a dit... Parce qu'il pleut quand même toute l'année. Il pleut un peu plus en hiver, ok, mais il pleut quand même toute l'année. Donc, en hiver, on a l'eau qui s'infiltre, mais en été, il y a plus d'évaporation, effectivement. Donc, l'eau va rester dans la couche de sol, elle ne va pas descendre jusqu'à la nappe. Du coup, on va avoir plus d'eau qui va arriver en hiver qu'en été. Mais vous voyez qu'en été, la courbe descend quand même. Alors ça reste au niveau... Ouais, il y a les plantes qui absorbent, ça reste au niveau du sol. Elles ne vont pas reprendre l'eau de la nappe. C'est beaucoup trop loin, souvent. C'est simplement parce que la nappe se vidange. On a dit qu'elle allait sortir à la rivière. Donc la nappe se vidange. Et si elle n'est pas alimentée, les niveaux baissent. en hiver, il recommence à pleuvoir, il y a moins d'évaporation, donc ça s'infiltre plus et les niveaux remontent. Et s'ajoute à ça, dans les endroits où il y a des captages pour l'agriculture, le fait qu'en agriculture, on capte de l'eau, surtout entre mai et août, quand on en a besoin sur les cultures. Donc ça va venir baisser le niveau de l'eau encore plus à ces périodes-là. Donc là, je vous ai expliqué le chemin de l'eau, ce que faisait l'hydrogéologue, une partie du travail de l'hydrogéologue. Et donc moi, je suis hydrogéologue et en plus, enfin, j'ai une spécialité, je suis modélisatrice. Donc je vais venir modéliser les eaux souterraines pour simuler leur comportement et faire des scénarios derrière. Donc, comment on va faire ça? On va faire une modélisation 3D de la géologie de la région. Donc on va modéliser chaque couche géologique en 3D. Ensuite, on met ça dans un modèle qui est développé au BRGM qui s'appelle Marthe. Après, il y en a plein d'autres, des modèles qui gèrent l'hydrogéologie. Et on va faire pleuvoir. Ça va s'infiltrer. Ça va former des nappes d'eau. Et on va essayer de reproduire le mieux possible les chroniques qu'on a observées, qu'on a enregistrées. Donc là, vous avez en rouge. C'est en rouge la chronique qui a été enregistrée. Et en bleu, la chronique que nous, on a simulée. Donc on va essayer de reproduire le mieux possible. Une fois que c'est reproduit le mieux possible, on peut estimer qu'on a à peu près compris comment ça fonctionnait le système, qu'on a à peu près réussi à reproduire la même chose, et on va pouvoir tester des nouvelles choses. Donc ça peut être essayer de comprendre pourquoi il y a certains phénomènes. Par exemple, si on a une eau qui baisse, un niveau d'eau pardon, qui baisse régulièrement, c'est de dire si j'enlève, par exemple, tous les prélèvements, est-ce que ça suffit à expliquer cette baisse, ou est-ce qu'il y a autre chose, c'est qu'il pleut vraiment moins, c'est qu'il y a moins d'eau qui s'infiltre. Voilà, on peut essayer de deviner pourquoi il y a une baisse des eaux souterraines. Ça peut être aussi dans le cadre des pollutions, parce qu'on va pouvoir modéliser les pollutions aussi. Se dire j'ai une pollution, pourquoi j'ai une pollution à cet endroit-là, essayer de faire des tests pour voir si on met un polluant à tel endroit, ça arrive dans la quantité qu'on observe à un autre endroit. Et ça peut être des simulations pour l'avenir aussi. Donc de dire, soit il y a des projets qui existent, donc se dire que Poitiers va devenir la nouvelle capitale économique de tout l'Ouest, et il va y avoir, 10 millions de personnes dans 50 ans, on ne sait jamais. Et se dire, pour toutes ces 10 millions de personnes, on va avoir besoin d'eau. On va sûrement solliciter les eaux souterraines. Voilà. Où est-ce qu'on va pouvoir mettre des puits, comment on va pouvoir les gérer, etc. Ça peut être aussi de se dire il y a le changement climatique qui arrive. Donc on ne sait pas encore complètement comment ça va évoluer, mais on a des bonnes idées. Il y a le GIEC qui fait des rapports régulièrement. Et donc ça va être essayer de tester les scénarios du GIEC. Donc de dire il va pleuvoir, par exemple, plus en hiver, il va faire plus chaud en été. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur les eaux souterraines? Voir si les niveaux vont baisser, s'ils vont rester à la même hauteur, s'ils vont augmenter, on ne sait jamais. Et puis on peut faire des simulations aussi en pollution. Donc ça, c'est ce que je fais plus particulièrement. Donc je travaille sur les pollutions agricoles. On va essayer de simuler au mieux les pratiques agricoles et du coup les intrants en nitrate dans les sols et dans les nappes. Et ensuite, on va pouvoir faire des scénarios agricoles en disant si on fait plus de telle culture, si on arrête telle culture, si on met plus de prairies, si on fait plus d'agriculture biologique, qu'est-ce que ça va donner sur les concentrations en nitrate au captage d'eau potable, et est-ce qu'on va réussir à récupérer une qualité d'eau suffisante à cet endroit-là. Voilà, moi j'ai fini de vous raconter un peu toutes les eaux souterraines et puis ma vie. Est-ce que vous avez compris ce que je vous expliquais? Pour ceux qui étaient un peu pas encore trop dans le domaine. Est-ce que ça vous a servi à quelque chose? On verra. Et puis si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des sujets que j'ai pas abordés et dont vous voulez parler, n'hésitez pas. Qui a une question? Oui? C'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé. Non. Alors, L'alimentation de Poitiers en eau, elle est principalement, je ne veux pas dire trop de bêtises, je ne suis pas focalisée sur Poitiers dans mon métier, je n'ai pas trop regardé. Elle est principalement en fait à Poitiers faite par le Clain. Il y a une prise d'eau au niveau de la Jalière, je crois, dans le Clain. Mais les niveaux du Clain sont très liés au niveau des eaux souterraines également. La qualité, alors ça, je peux pas répondre, vraiment, je sais pas. Cette année, c'est une année un peu particulière puisqu'il a beaucoup plu en mai-juin. Et du coup, il y a quand même eu une recharge tardive sur mai-juin. Donc les niveaux d'eau ont baissé cet été, mais surtout tardivement parce qu'il n'a pas du tout plu après juin. En juillet-août, on a quand même eu un super été. Donc les arrêtés... Les arrêtés préfectoraux pour limiter les prélèvements d'eau d'irrigation sont arrivés assez tard cette année, par rapport à d'autres années où ils arrivent déjà dès juin, juillet, il y en a déjà. Mais il y en a quand même eu. Ah bah ça va dépendre de la recharge cette année surtout. Ouais, non, les niveaux n'ont pas... Enfin voilà, ils étaient suffisamment hauts cet hiver pour pas être inquiétants encore.
Et vous avez parlé de tout
Alors, en Poitou-Charentes, il y a quand même pas mal d'endroits qui sont pollués. Donc, dans les niveaux d'eau, alors je suis plus focalisée sur les nitrates, moi. Les niveaux des concentrations en nitrates sont quand même très élevés. Sur la Charente, par exemple, sur les Deux-Sèvres, je connais moins la Vienne, je vous avouerai. Il y a plusieurs origines des nitrates, effectivement. On peut avoir une origine qui vient des plantes, hein, elles-mêmes, qui relarguent des nitrates. Et puis, il peut y avoir aussi les nitrates anthropiques. Nous-mêmes, nous rejetons des nitrates aussi. Donc, s'il y a des grosses zones de concentration humaine, il peut y avoir des nitrates qui viennent de ces zones. Et il y a les nitrates de l'agriculture, également. Il faut aussi savoir que les eaux souterraines, ça va mettre beaucoup, une goutte d'eau va mettre beaucoup de temps à arriver au sous-sol, avant d'arriver à la nappe d'eau souterraine. Ça peut mettre 6 mois quand elle est très proche, ça peut mettre 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend de la profondeur de la nappe d'eau souterraine. Et en fait, les concentrations en nitrate actuelles dans les eaux viennent surtout des pratiques agricoles des années 60, 70, 80. Les pratiques actuelles, en fait, l'eau qui arrive actuellement sur les sols, elle n'est pas du tout encore arrivée à la nappe, donc on ne la mesure pas encore. Du coup, c'est vrai que dans les années 50-60, il fallait nourrir la population, il fallait repeupler, relancer l'agriculture, et il y a eu un recours assez important à tout ce qui était fertilisant, nitrate et aux pesticides. Voilà, il y a eu l'avènement des pesticides à cette période-là. Et puis, on ne mesurait pas encore forcément l'impact sur les eaux souterraines. Les mesures de nitrates ont commencé à arriver dans les années 80-90, systématiques. La qualité des eaux souterraines, en fait, reflète les pratiques agricoles et les comportements humains aussi des années précédentes. C'est ce qui fait la difficulté aussi de mettre en place des plans d'action concernant les pollutions agricoles ou les autres pollutions d'ailleurs, hein. C'est que justement il faut évaluer le temps d'arriver à la nappe et dire si on agit maintenant, ça ne va donner des résultats que dans 15 ou 20 ans. Et c'est pas forcément facile à faire comprendre à tout le monde, et c'est pas forcément facile après de dire on va mettre beaucoup d'argent pour que finalement ça se voit que dans 15 ou 20 ans. C'est une des difficultés. Oui.
Et globalement, les nappes phréatiques, elles sont à quelle profondeur? Parce que quand vous dites 60-70, ça veut dire quand même que c'est des nappes phréatiques très profondes. Et là, vous disiez qu'il y a aussi des captages sur le Clain. En gros, l'eau potable qu'on consomme, on la consomme sur des nappes
Il y a, exactement, il y a un peu pas de généralité. Après, les nappes d'eau souterraines en Poitou-Charentes, je ne vais pas dire trop de bêtises, peut-être on pourra m'aider au fond, mais elles sont, enfin la première nappe en tout cas, parce qu'il y a différentes couches géologiques qui vont pouvoir contenir différents aquifères, différentes nappes d'eau. Donc la première nappe, elle est souvent, je sais pas, entre 10 et 30 mètres, 10 et 50 mètres de profondeur, mais c'est pas forcément la plus productive. Donc c'est pas forcément celle qu'on va aller chercher pour produire de l'eau. On va pouvoir aller plus loin. On va aller, je sais pas, entre 50 et 100 mètres. Renouvelle plus vite, ouais.
Est-ce que ça se passe comment ? Par exemple, parce qu'il y a des forages pour la consommation humaine, puis après il y a des forages pour la vie. Et moi, je me suis toujours posé la question des pratiques agricoles. Est-ce qu'on forme n'importe où ? Est-ce qu'on forme dans ce cas-là ? On va où ? On va chercher ? Parce que c'est compliqué. On sait très bien que l'eau, c'est un enjeu maintenant.
Alors, il y a différentes choses qui sont mises en place. Donc déjà, quand on va faire un forage pour chercher de l'eau, on va aller chercher un forage productif, c'est-à-dire avec des eaux qui circulent vite dans le sous-sol et qui vont pouvoir se régénérer vite aussi et revenir vite au forage. Alors ça, c'est la première chose. Donc ça peut être la première nappe, ça peut être la deuxième nappe, ça peut être plus profond en fonction de ce qu'on trouve à l'endroit où on fait le forage. Après, il y a des choses qui sont mises en place. Par exemple, il y a des nappes d'eau qui sont réservées à l'alimentation en eau potable parce qu'elles sont sensibles, parce que les niveaux d'eau peuvent baisser rapidement parce que la qualité est encore est bien par rapport à d'autres nappes. Du coup, on va les réserver pour l'alimentation en eau potable. Donc les forages existants avant cette décision vont rester, mais les nouveaux forages ne seront que pour la consommation, pour l'alimentation en eau potable. Il y a aussi des nappes, les nappes captives, alors j'en ai pas parlé là, il y a des nappes libres qui sont en surface. Donc la nappe libre, ça veut dire que le niveau de l'eau, il varie, il n'est pas bloqué. Et quand on passe dans des nappes plus profondes, elles vont être entre deux couches d'argile, par exemple. On va avoir une nappe d'eau entre deux couches d'argile. Et si ça continue, donc l'eau va monter, va arriver au toit de l'argile. Mais sauf que ça ne va pas arrêter de l'alimenter. Il y a de l'eau qui va continuer à arriver. Donc là, ça va monter en pression. Et le niveau de l'eau va artificiellement passer au-dessus de l'argile. Ça fait les forages artésiens. C'est-à-dire des fois, on fait un puits et l'eau jaillit d'elle-même. C'est des nappes captives. Et donc ces nappes sont aussi protégées pour protéger leur captivité. Donc si on pompe trop dans ces nappes, on va faire baisser le niveau et au final on va descendre en dessous du niveau des argiles. Donc ces nappes sont aussi protégées. Donc il y a des choses qui se font. Et puis quand on fait il y a des réglementations qui existent. Après, il n'y a pas de règles générales. Et c'est vrai que souvent, les captages agricoles sont déjà là depuis longtemps. Donc, on ne va pas les enlever. C'est leur gagne-pain aussi. On ne peut pas leur dire on coupe tout. Ce n'est pas possible. Et par contre, voilà, il faut faire une bonne gestion de l'eau entre les différents usages. Et c'est ça aussi le boulot de l'hydrogéologue et puis des institutions. Je ne sais pas si je réponds à peu près.
Le BRGM, c'est quoi ?
C'est le Service National Géologique. C'est une structure publique. On travaille avec les ministères, on travaille avec les institutions, et puis en Poitou-Charentes, on va plus travailler avec les régions, les départements, les collectivités, avec les syndicats des eaux, surtout les structures publiques. Je ne sais plus quel était le début de la question.
La réponse était ça, en
c'était ça la question. Super. Oui.
Oui, dans une enquête publique sur l'installation de cette ferme usine à Cousseray-Bois qui se situe sur une zone de captage de l'eau potable,
oui.
Il y a un hydrogéologue de Haute-Vienne, Siver,
oui.
Qui a écrit « Le risque de pollution diffuse de la nappe alimentant le captage d'eau est probable. »
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie dans ces cas-là ? Comment je dois lire ça ?
Alors, le risque de pollution
donc,
diffuse alimentant...
Parce qu'il y a 1200 tourillons avec épandage et oui.
Bah, ça veut dire effectivement que l'eau, comme, voilà, l'eau qui s'infiltre va pouvoir être éventuellement contaminée par, par cet épandage. Et que c'est probable. Ça risque de faire une pollution. Oui. Après, je ne connais pas le contexte, je ne peux pas vous dire exactement. Mais oui.
D'informations plus précises et c'était très difficile, on fait une réunion publique sur cette question, c'est très difficile de trouver un hydrogéologue qui accepte de venir nous en parler.
D'accord. Par litre. 150, et ça c'est 50 mg par litre pour les eaux destinées à la consommation humaine. C'est 100 mg par litre pour les eaux destinées au bétail, si je ne me trompe pas. Et les normes, après, sont faites aussi par la directive 4 sur l'eau et la directive nitrate qui sont au niveau européen. Et ça impose des normes de bon état qui seraient en dessous de 50 mg par litre pour les nappes d'eau souterraines. Et comment elles ont été faites un petit peu
concrète, ouais.
C'est des amendes, c'est aussi bête que ça, c'est des amendes. C'est justement là, un projet sur lequel je travaille actuellement, ils ont un problème de concentration en nitrate. Et donc il y a des états des lieux réguliers qui sont faits sur les nappes d'eau souterraines, qui sont tous les 5 ans. Et donc on donne un indice de bon état ou pas de la masse d'eau souterraine. Et si ça dépasse, soit il faut pouvoir prouver qu'on a fait ce qu'il fallait, mais que c'est pas encore arrivé parce que c'est des nappes d'eau souterraines et que c'est long et que voilà. Soit ça va vouloir dire des amendes qui vont devoir être réglées à l'Europe. Alors il peut y avoir des dérogations, des demandes de dérogation, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, ça va être du financier. Mais ça ne va pas aller plus loin que du financier. Oui.
Vous analysez les nitrates, mais tous les autres polluants, techniquement, c'est très compliqué, j'imagine, à mesurer.
C'est des analyses qui coûtent très cher. Alors, j'ai plus trop les ordres de prix en tête, mais je crois que pour une analyse nitrate, ça va être quelques dizaines, quelques centaines. Et quand on passe en pesticides, ça monte à plusieurs milliers d'euros, quoi. Médicamenteuse, etc., c'est très compliqué, ouais. Ouais. Alors, il y a des systèmes qui se mettent en place un petit peu de, avec des organismes vivants, en fait, pour essayer de voir si l'eau, en fait, va induire des modifications... c'est quoi le mot ? Va être perturbatrice, pour mesurer les perturbateurs endocriniens. Donc, il y a des techniques qui se développent pour essayer de voir si, globalement, l'eau va être perturbatrice ou pas. Mais aller chercher chaque molécule, c'est très compliqué. Il y en a beaucoup. Et voilà, il faut savoir quelles molécules on a sur le bassin pour pouvoir savoir quelles molécules analyser. C'est vraiment une grande question. Oui. Alors ça, c'est pas la pluviométrie, c'est le niveau d'eau.
Ah oui, enfin,
voilà. La pluviométrie, souvent, c'est les mois d'hiver, c'est vers... ouais. Ça, il y a, voilà, il y a exactement, il y a un petit retard dans le pic de niveau d'eau qui est dû à l'infiltration qui va être retardée. Mais ça va être souvent autour de février-mars. Les hautes eaux, les plus hautes eaux en piézométrie, ça va être février-mars. Les plus basses eaux, ça va pas être juillet-août, ça va être plutôt septembre-octobre. Bon ben, j'espère que si vous avez d'autres questions, enfin, on peut peut-être arrêter là, et puis si vous avez des questions plus des interrogations, vous pouvez, ou des interrogations sur le métier d'hydrogéologue, vous pouvez aussi venir me parler. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là, d'avoir été très attentif et réactif. Gracias.